Nous allons débuter dans quelques minutes. Je vous invite à aller vous chercher des chaises à l'arrière. Il reste quelques places à l'avant, 2-3 places. Pour les dernières personnes qui viennent de rentrer, il y a des chaises à l'arrière, à la gauche de la salle. Vous êtes disciplinés, ce n'est pas vos premières audiences, visiblement. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Mon nom est Suzanne Méthode, présidente du COMEX. Très heureuse d'être ici ce soir pour les audiences publiques pour les modifications du certificat d'autorisation du projet minier d'exploitation ferro-vanadium de Black Rock. J'ai eu le plaisir de passer quelques temps dans la région à Chibougamau au mois de septembre. C'était magnifique. J'ai pris un peu de temps aussi. On m'a amené visiter d'anciens sites de votre historique, en fait, l'historique minier de Chibougamau. Eh bien, l'histoire se poursuit encore aujourd'hui. Vous aurez un projet qui va potentiellement vous accompagner pour 40 et quelques prochaines années. Avant de débuter, j'inviterai la mairesse, Mme Manon Cyr, à nous adresser quelques mots.
Mme Méthode, membre du COMEX, les gens de Métaux Blackrock. Je dois vous dire que ce soir, ça me fait particulièrement plaisir de vous recevoir. Premièrement, vous êtes à Chibougamau, dans le nord du Québec. On est bien heureux. Puis je dois vous avouer que la mairesse de Chibougamau est plus de bonne humeur à ce moment-ci qu'elle l'était au mois de juin. Donc, lors des audiences du BAP. Les gens de Blackrock le savent. On travaille ensemble déjà depuis plusieurs mois. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Je suis certaine, comme vous voyez, que les gens sont intéressés au projet. C'est un projet bénéfique pour notre région. Mais chez nous, on s'assure aussi d'avoir un projet qui soit sur le plan environnemental, sur le plan des retombées économiques, sur le plan de l'efficacité aussi, puis le futur pour nos enfants adéquat. Alors, bonne session à Chibougamau et bonne soirée.
Merci. Alors, comment ça va se passer ce soir? Dans le fond, c'est une soirée qui va être divisée en deux blocs. Le premier bloc, on va vous parler du mandat du COMEX, le processus, et le promoteur, Métaux Blackrock, va nous faire une présentation, environ une trentaine de minutes, du projet et des modifications, dans le fond, qui font l'objet des audiences aujourd'hui. On prendra une courte pause et on poursuivra avec le dépôt des mémoires, des commentaires. La période de présentation du promoteur dans le premier bloc, il se peut qu'il y ait des éléments d'incompréhension, alors on aura quelques temps pour poser des questions, d'éclaircissement avant la pause. Et pour la présentation des mémoires, vous serez invité à vous inscrire à l'arrière. Vanessa Chalifour, la secrétaire exécutive du COMEX, est là. Bonjour Vanessa. Donc, il prendra les noms et c'est par ordre, dans le fond, d'inscription où vous pourrez venir faire vos présentations. Le COMEX, Le mandat du COMEX, dans le fond, est issu du chapitre 22 du convention, de la Convention du Nord du Québec et de la baie James, signée en 1975. Vous pouvez le voir, je ne suis pas seule. Nous sommes 5 membres du comité, 3 nommés par Québec et 2 par le gouvernement de la Nation au CRI. Alors, j'inviterai mes collègues à se présenter, à commencer par ma droite.
Paul John Murdoch, nommé par le gouvernement de la Nation au CRI.
Brian Craig, nominated by the Grand Council of the Crees.
Daniel Berroir, je suis nommé par le gouvernement du Québec.
Et Robert Joly, gouvernement du Québec également.
Alors, je vous laisse lire, je ne lirai pas là, tous les points. Donc, notre mandat est, dans le fond, d'examiner les projets qui sont soumis à la procédure d'évaluation, comme je le disais plus tôt, en vertu du chapitre 22 de la Convention. Notre travail, la façon qu'on fonctionne, donc, à partir du moment où une étude d'impact nous est présentée, il y a toute une batterie d'analystes, une armée, une équipe d'analystes, des spécialistes de différents ministères, autant du côté du gouvernement du Québec que du gouvernement de la Nation CRI, qui vont analyser les documents et nous-mêmes aussi, à partir de cette analyse-là, souvent, bon, des questions supplémentaires sont posées pour ultimement en arriver à une recommandation. Alors, le COMEX n'a pas un pouvoir décisionnel, mais un pouvoir de recommandation. Alors, notre travail est alimenté par des analystes. On en a quelques-uns ici aujourd'hui que je vous présente. Pernilla Talek du gouvernement de la Nation CRI, Lucas Delvecchio du gouvernement de la Nation CRI et Marie-Lou Coulombe au gouvernement du Québec, au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. À la différence du BAP, donc, vous l'avez vu, les CRI siègent aussi, donc vos voisins siègent sur le comité. Et à la différence du BAP, le COMEX suit les projets, dans le fond, pendant toute leur durée de vie. Donc, à partir du moment où nous émettons une recommandation, cette recommandation devient finalement les conditions de certificat d'autorisation du projet. Et ces certificats-là, bon, c'est des conditions qui sont assorties de nombreux suivis, alors entre autres ce soir, et c'est ça qui est important aujourd'hui au niveau des audiences. Il y a des enjeux qui vous préoccupent plus que d'autres. Ces enjeux-là, souvent, ben quand on peut en être au courant, ben c'est souvent des éléments qui vont être en effet des éléments de suivi. Et donc, tout au long de la durée du projet, ces suivis-là, on les reçoit. Et si les suivis, dans le fond, ne rencontrent pas les hypothèses ou les objectifs, eh bien, on a toujours le moyen, au fil de la vie du projet, de pouvoir ajuster le tir. Notre travail, dans le fond, est basé là, au-delà là, du respect des lois et des règlements. Et ça, bon, on a nos analyses dans les ministères qui s'assurent de cette chose-là. On a une paire de lunettes qui est particulière, qui est les principes qui sont énoncés, dans le fond, dans la Convention du Nord du Québec et de la baie James, au chapitre 22. Alors, c'est vraiment, encore une fois, je ne les lirai pas, je vous les laisse les lire vous-même. C'est vraiment les éléments qui, nous, vont s'ajouter aux éléments réglementaires et des lois. C'est les intérêts des populations, des droits de chasse, piégeage, droits territoriaux décrits, le droit au développement, évidemment les Jamaïciens aussi, vos intérêts particuliers. Donc, c'est vraiment nous, les paires de lunettes qui s'ajoutent à toute la batterie de règlements et qui font l'objet des certificats d'autorisation. Ce qui est particulier aujourd'hui, je pense qu'il est important qu'on mentionne, et les gens de Métaux BlackRock, bonsoir et bienvenue, vont vous le présenter, c'est qu'il y a déjà un certificat d'autorisation. Donc, le COMEX est venu ici déjà il y a quelques années, et en 2013, un certificat d'autorisation a été émis. Toutefois, le projet, n'a pas encore été construit, et dans l'évolution de ce projet-là, il y a des modifications significatives qui ont été apportées, et le COMEX a estimé que ces modifications-là justifiaient la tenue à nouveau d'audience publique. Alors, ce sont ces éléments-là qui font l'objet. Ce n'est pas le projet de mine en tant que tel, il y a déjà un certificat d'autorisation, mais les modifications qui y sont apportées. Alors, j'inviterai, sans plus tarder, Métaux BlackRock à venir présenter.
Oh, pardon.
C'est le micro que ça va prendre. On vous apporte le micro à main.
Bonsoir tout le monde. Yves Desrosiers, vice-président des opérations pour les métaux BlackRock. Je suis heureux de voir l'intérêt ce soir que notre projet suscite dans la région. Je vais vous présenter pendant la prochaine demi-heure, environ les 30 prochaines minutes, où est-ce qu'est rendu notre projet. Et j'espère que ça va pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions durant cette période. Comme vous le savez, une présentation comme la nôtre, il y a toujours un peu de le passé simple, il y a un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir. C'est certain qu'on l'a fait au meilleur de nos connaissances, mais vous ne pouvez pas me retenir le fait que les marchés peuvent changer un peu ces choses-là. Mais comme vous allez voir, il y en a très, très peu. L'ensemble est selon les faits que nous avons en main présentement. Qui sommes-nous? Monsieur Metro BlackRock est une compagnie canadienne privée qui a été fondée en 2008. Metro BlackRock détient un gisement de classe mondiale de vanadium, titane et magnétite qui est situé ici dans la région de Chibougamau. En plus de la mine, Metro BlackRock va aussi implanter une usine de deuxième transformation, mais celle-ci va être dans la région du Saguenay. Derrière Metro BlackRock, il y a une solide base de financiers pour nous supporter, ça c'est certain. Comme vous pouvez voir à l'écran, il y a Orion, Investissement Québec aussi sont avec nous. On a environ 150 investisseurs québécois et aussi on a d'autres investisseurs qui viennent de d'autres régions du monde. On a la Nation Cree qui est impliquée dans notre projet. La RBG est impliquée aussi et la Société de développement de la Baie James. Fait qu'on a une base solide à l'arrière de nous d'investisseurs pour nous aider, pour nous amener où est-ce qu'on est aujourd'hui. Le projet aujourd'hui, c'est quoi? Comme on le voit, pointeur est ici. C'est une mine à ciel ouvert et un concentrateur qu'on veut bâtir ici à Chibougamau. Du concentrateur, on va faire un concentré de vanadium, titane et magnétite. Et ce concentré-là, le concentré va être envoyé ou transporté à l'usine de deuxième transformation qui, elle, va être située à Saguenay. De l'usine de deuxième transformation, nous allons produire de la fonte brute, du ferrovanadium ainsi que de la scorie de titane. Ici, on vous explique un petit peu où est-ce qu'on se situe. La mine est située à 27-28 km au sud-est de la ville de Chibougamau. Comme on peut voir ici aussi des éléments importants, c'est le chemin de fer qui relie Chibougamau pour descendre dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean que nous allons utiliser, ainsi que le chemin de fer du Roberval-Saguenay que nous allons utiliser aussi pour amener notre concentré jusqu'à la raffinerie. Et le chemin de fer de Roberval-Saguenay, comme vous le savez, appartient à Rio Tinto. Les ententes ont été prises avec CN et Rio Tinto, Roberval-Saguenay. Voici un peu à quoi va ressembler notre mine dans 42 ans à la fin des opérations. Nous allons avoir la fosse ici, la mine proprement dite, comme on le sait. À l'est de la mine, nous allons avoir notre stérile minier qui va être accumulé. Du côté ouest, nous allons avoir le parc à résidus ainsi qu'une usine de traitement et un bassin de polissage. De la mine, le minerai va être transporté par camion jusqu'au concasseur primaire pour alimenter ici l'usine de traitement. Avec l'usine de traitement, nous allons voir aussi le garage pour la maintenance des équipements miniers, les entrepôts et les bâtiments administratifs vont être dans ce secteur-là aussi. Voici un peu l'usine de deuxième transformation. Je pense que ça intéresse les gens aussi. Ça ne fait pas partie du COMEX des discussions ce soir, mais je voulais quand même vous prendre le temps de vous présenter l'usine qui va être située, elle, à Saguenay, comme je l'ai dit précédemment. Ceci est intéressant. C'est les autres projets de vanadium à travers le monde, où est-ce qu'ils sont situés? On voit qu'il y a des projets en Russie et en Ukraine. On en retrouve aussi en Chine et en Nouvelle-Zélande. On voit des projets en Australie, en Afrique du Sud et au Brésil. BlackRock Metal va être le seul producteur de vanadium au nord, en Amérique du Nord. Puis ça, c'est important, c'est stratégique. Au niveau géographie, ça va nous donner des avantages concurrentiels sur plusieurs de nos concurrents. Je vais parler des prochaines minutes de nos trois produits, expliquer qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va vendre et à quoi ça sert. Je pense que c'est important de le voir. Principal revenu va venir de la fonte brute. La fonte brute, c'est un produit semi-fini au niveau de la production d'acier. Celle de BlackRock a un avantage, elle va être de haute pureté de par les contaminants qu'on ne retrouve pas dans la roche. Fait que ça, c'est intéressant pour nous de faire un produit de très haute qualité sur le marché mondial. La fonte brute, ça sert à quoi? Ça sert dans le recyclage de l'acier. Au niveau environnemental, c'est un avantage concurrentiel pour pouvoir recycler l'acier. On se sert de fonte brute dans plusieurs raffineries à travers le monde. Un autre élément important, 90% des importations américaines viennent du Brésil, de la Russie et de l'Ukraine. Fait qu'on va être pour le marché nord-américain, on va être très, très bien situé ici, à partir de la mine ici à Chibougamau et de la raffinerie à Saguenay. Notre deuxième produit va être le vanadium ou le ferrovanadium. Le vanadium, c'est un additif qu'on rajoute à l'acier lorsqu'on est en train d'en faire la fusion. Ça sert à en renforcer considérablement. Juste pour vous donner un exemple ici, dans certaines sortes d'acier, 1 kg de vanadium dans 1 tonne d'acier permet de doubler les forces, la résistance de l'acier. Qu'est-ce que ça fait? C'est que pour plusieurs constructions, on peut parler des gros bâtiments, les ponts, les automobiles, on a besoin de moins d'acier pour la construction, pour les construire, en ayant besoin moins d'acier, moins d'énergie nécessaire, en ayant moins d'énergie, on a moins d'émissions de gaz à effet de serre. C'est la principale utilisation du vanadium pour renforcer l'acier et en diminuer les besoins lors de construction. Notre troisième produit, la scorie de titane. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup, nous, ici, dans notre minerai de titane ou des éléments de titane. Le titane sert principalement dans le pigment blanc, le dioxyde de titane étant très blanc et très opaque. On s'en sert dans les plastiques, dans les peintures, les enduits, les céramiques. On s'en sert même dans les médicaments, le dentifrice, et on en retrouve même dans la nourriture. Et c'est principalement le côté blancheur et l'opacité qui est nécessaire ici. C'est à ça que ça sert, à ça qu'on l'utilise. Voici un graphique qui est vraiment important. On va prendre une minute certaine pour celui-là. Ça vous explique un peu où est-ce qu'on était avant, où est-ce qu'on s'en va présentement. Lors du premier projet, ou le projet qui était accepté en 2013, le projet était de produire du concentré de magnétite. Le concentré de magnétite au niveau des éléments de fer est le moins pur et celui qui a le moins de valeur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on présente? C'est un projet où est-ce qu'on va produire de la fonte brute de haute pureté. Comme on peut voir sur l'échelle de valeur, la valeur par tonne de minerais extraites est vraiment meilleure avec la fonte, surtout celle de haute pureté, que le projet qu'on avait avant au niveau du concentré seulement. En plus, on va en récupérer le titane et le vanadium qui vont faire qu'on va être deux autres sources de revenus de plus par rapport au projet ici où est-ce que les deux éléments étaient perdus, où on n'avait aucun revenu qui pouvait en provenir. Excusez-moi, je vais juste prendre un peu d'eau.
Je vais profiter de cette petite pause pour aviser les gens. Vous pouvez prendre des notes, évidemment, mais juste peut-être un élément d'information. Tous les documents qui sont présentés aujourd'hui et qui ont été présentés par le promoteur dans le cadre du projet sont tous disponibles aussi sur notre site Internet du COMEX. On aura les adresses un petit peu plus tard.
comme on peut voir ici, au niveau de la courbe des revenus, pour le projet qu'on présente aujourd'hui est vraiment de meilleure valeur que celui qui était auparavant, qui avait été présenté auparavant en 2011-2013, dans ces années-là. Et c'est vraiment l'élément pureté qu'on va chercher par rapport à la courbe de valeur reliée qui vient avec. Ceci étant dit, je vous ai présenté un peu qui est Metaux BlackRock. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Madame Méthode l'a expliqué au début. Nous avons obtenu un certificat d'autorisation globale en 2013. Par contre, on a fait des changements, 6 changements que je vais vous expliquer un petit peu plus tard, qui ont amené à redemander un nouveau certificat d'autorisation. Les modifications, ils ont fait en 2017 et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Notre objectif est de débuter la construction au printemps 2019, donc au printemps prochain, celui qui s'en vient. Le projet a évolué à travers le temps, comme vous le comprenez bien. En 2011, on a réalisé la première étude de faisabilité pour un concentré de magnétite, comme je vous expliquais précédemment. La même année, on a réalisé une étude d'impact sur l'environnement. De ces 2 documents majeurs-là et une panoplie d'autres, en 2013, il y a eu réception du certificat d'autorisation environnementale pour la mine. En 2013, le projet était quoi? Une mine à ciel ouvert et un concentrateur à Chibougamau pour produire 3 millions de tonnes par année de concentré de magnétite pour être envoyé principalement sur les marchés chinois. C'est là qu'en 2014, la compagnie s'est repositionnée. L'idée, c'était vraiment de faire un projet économiquement viable. Comme vous avez pu voir tantôt sur le graphique, le concentré est le matériel de fer qui est le moins grande valeur. Cette fois-ci, on l'a modifié. C'est ça qu'on a aussi. On est parti de l'ancien projet et on a ajouté une usine de 2e transformation qui, celle-ci, va être au Saguenay, qui a été décidée, ça fait pas si longtemps que ça, pas au début. 2e élément aussi, on a élargi notre gamme de produits. Au début, on produisait un concentré de fer, quelque chose, un matériel qu'on considère bas de gamme dans l'industrie, pour maintenant faire une fonte de haute pureté et en plus aller chercher les revenus du vanadium et du titane qui étaient inclus et qui n'avaient aucun revenu relié à ça dans le projet précédent. Voici les principaux changements qu'on a faits ou les demandes de changement qui ont été faites par rapport au certificat d'autorisation qui avait été reçu en 2013. La première demande ou le premier changement, on a fait une réduction du tonnage annuel de concentré. Ça a été demandé. En plus de ça, je vous ai parlé de l'option du chemin de fer, mais on a ajouté l'option de transport par camion de la mine jusqu'à la Syrie-Gagnon. Ça a été un des changements qui ont été demandés aussi. Dans les autres changements, il y a l'élimination du camp de construction et aussi la durée de vie de la mine est passée de 13 ans initialement à 42 ans aujourd'hui. Des éléments étant donné qu'on refaisait une demande, on a fait des améliorations au niveau de la gestion des eaux ainsi que la gestion des résidus. Fait que voici les 6 éléments qu'on a fait des demandes de modification, des demandes de changement et je vais prendre le temps de vous les expliquer. La première, il y a une réduction du tonnage de concentré. Dans le projet qui avait été autorisé, c'est un projet dans lequel on produisait 3 millions de tonnes de concentré de magnétite, comme je vous disais, pour être envoyé sur les marchés chinois. Aucune transformation au Québec, ni par nous, c'est sûr. Le projet proposé aujourd'hui, c'est une production d'environ 830 000 tonnes de concentré annuel pour être transformé ici au Québec par nous, par BlackRock. Aussi, il y a l'ajout de l'option de transport par camion jusqu'à la Syrie-Gagnon. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Qu'est-ce qu'on privilégie? C'est d'avoir un chemin de fer. À l'heure actuelle, il y a un chemin de fer qui relie Chibougamau, qui descend jusqu'au Saguenay. Comme je vous ai montré tantôt, on va utiliser 2 compagnies de chemin de fer pour le transport. Mais il y a un tronçon qui manque, celui entre le réseau du CN et la mine. Ce tronçon-là, notre objectif, c'est de l'avoir de l'avoir atteint pour partir les opérations. Par contre, le tronçon, il n'est pas encore financé. Donc, ça nous laisse encore une incertitude de ce côté-là. C'est quand même l'option qu'on privilégie, c'est l'option qu'on veut avoir en place, mais on ne peut pas se permettre d'avoir juste une seule option, quelque chose comme ça, quand ce n'est pas financé. C'est qu'à l'heure actuelle, on veut vraiment construire le tronçon qui manque. Par contre, il manque le financement. Et en attendant d'avoir le tronçon en place, si c'est nécessaire au début des opérations, on verra. Si c'est pas nécessaire, tant mieux. Mais si c'est nécessaire, nous allons devoir transporter par camion le concentré entre la mine et le secteur d'Assiri-Gagnon pour pouvoir être chargé là dans les wagons. Comme je le disais, c'est pas l'option qu'on privilégie. On veut avoir le tronçon, mais s'il n'est pas là, il faut quand même partir les opérations à la fin de 2020. Une autre chose aussi, c'est qu'on va éliminer le camp de construction. Auparavant, on avait l'intention de construire une usine pour produire 3 millions de tonnes par année. Aujourd'hui, on parle de 830 000 tonnes par année. L'usine étant plus petite, on va avoir besoin de beaucoup moins d'employés du secteur de la construction pour l'étape de la construction. Donc, ça nécessitera pas d'avoir un camp sur place. Fait que le camp, on n'aura pas besoin, on éliminait ça. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va favoriser le logement de ces personnes-là ici dans les régions, Chibougamo, Chapais, Oujibougoumou. Et c'est certain que le logement aussi inclut la restauration ou la nourriture pour ces employés de construction-là. La durée de vie de la mine du projet a changé. L'ancien projet, qui est celui qui est autorisé, c'est une opération pour une durée de 13 ans. Cette fois-ci, le projet qu'on propose, on propose un projet qui va avoir une durée de vie de 42 ans. 42 ans, ça veut dire avoir des employés sur une période beaucoup plus longue. Ça va permettre à la région aussi de se développer, de regarder pour le futur. Ça va être intéressant pour tout le monde de ce côté-là. Au niveau de la gestion des eaux, la suite de l'autorisation fédérale de 2014, on a décidé de ne plus utiliser le lac Denis comme réservoir d'eau de procédé. C'est une option qui a été enlevée. Aussi, on a profité, il y a eu des améliorations au niveau de la gestion interne des eaux qui va faire qu'aujourd'hui, le projet qu'on propose, on a 100% de l'eau de procédé qui va être recyclée, ce qui veut dire qu'environ 90% de l'eau totale du site va être de l'eau recyclée. Le 10% qui manque, c'est de l'eau pour les douches, les toilettes, et c'est quelques petits éléments très particuliers. Mais l'idée là-dedans, c'est d'avoir plus de 90% de notre eau qui va être de l'eau qui va être recyclée à partir de l'usine et du parc à résidus. Au niveau du parc à résidus aussi, on avait dans le temps un parc à résidus séparé qui avait deux sections ou deux parcs. Un parc pour les résidus grossiers et un parc pour les résidus fins. Dans le projet actuel, ce qu'on regarde, c'est de mélanger les résidus grossiers et fins pour avoir un seul parc à résidus avec lequel on va pouvoir être capable de recirculer notre eau. Ça va être, en gros, ça va être notre réserve d'eau de procédé pour le site. Un élément important de la présentation, les préoccupations des communautés environnantes. Celle-là aussi, on va prendre le temps de la regarder. On a rencontré plusieurs groupes ou gens pour se faire une meilleure idée ou pour bien comprendre c'est quoi les préoccupations des gens de la région. Pour ce faire, nous avons rencontré premièrement les élus de Chibougamo et Chapais. Nous avons aussi rencontré les citoyens de Chibougamo et Chapais. Nous avons rencontré le conseil de bande d'Oujibougoumou. La communauté d'Oujibougoumou aussi a été rencontrée. Nous avons rencontré la famille impactée, le comité régional. Nous avons eu des rencontres et des discussions avec les représentants du COMEX. Nous avons rencontré les gens de la Société du Plan Nord, ainsi que les représentants des chambres de commerce et des communautés d'affaires de la région. Puis c'est à partir de ces rencontres-là que nous avons listés ou nous avons récupérés? C'est quoi qui inquiète les gens dans la région? C'est quoi qu'ils veulent savoir? C'est quoi qu'ils veulent comprendre? C'est quoi qui, même dans certains cas, on pourrait dire qu'ils pourraient leur faire peur avec notre projet? Suite à ces rencontres, nous avons classé en 5 catégories les commentaires qu'on a reçus. Comme vous en attendez, le premier qui revient souvent, c'est celui de l'environnement. Il y a eu beaucoup de questions au niveau du transport du concentré, des questions sur l'emploi et la formation, des questions au sujet de l'hébergement et aussi des questions au niveau du développement économique régional. Je vais prendre le temps de présenter ces 5 sujets-là ou 5 types-là. Premièrement, au niveau de l'environnement, on a décidé au niveau à l'intérieur de la compagnie d'intégrer ce qu'on pouvait au niveau des préoccupations qu'on a entendues. Fait que l'empreinte totale du site a été réduite. Nous avons aussi amélioré le recyclage de l'eau, comme j'en parlais précédemment. Et nous allons implanter un système de restauration progressive. Il va y avoir des zones ou des secteurs sur notre site qui ne serviront plus, bien, on va pouvoir commencer à les restaurer au lieu d'attendre à la fin de la vie des opérations ou de la vie de la mine. Il y a des plans de compensation qui ont été développés, approuvés, et d'autres sont encore à l'étude présentement. Pour la perte d'habitat du poisson, pour les zones humides ainsi que les habitats fauniques. Comme vous vous en doutez aussi, on va faire la surveillance régulière de l'eau, du sol et de l'air. Par contre, cette surveillance-là va se faire en partenariat avec les communautés. On va être transparent avec ça, qu'est-ce qui va se passer sur notre site. Les gens, ça y est, il y avait eu des inquiétudes, et c'est comme ça qu'on va le faire, pour pouvoir le partager, le faire ensemble. Il va y avoir des suivis sociaux qui vont se faire en partenariat avec les organisations locales. Ça aussi, c'est bien. Et deux éléments importants qui sont ici. Il n'y a aucun drainage minier acide de fait de la particularité de notre roche qui ne comprend pas de soufre et d'autres éléments qui pourraient le faire. La roche est neutre et ne génère pas d'acide. Et il n'y a aucune espèce en voie de disparition qui va être menacée ou qui a du fait de l'installation de notre mine et de l'opération de notre mine sur une période de 42 ans. Au niveau du transport de concentré, je pense que ça avait suscité beaucoup de discussions dans les derniers mois, dernières années. Ce qui a été décidé, qui est mis clair, c'est qu'on va faire le transport de concentré entre Chibougamau et Saguenay, va se faire avec le chemin de fer. Comme je le disais précédemment, il nous reste encore le petit tronçon. Fait qu'on privilégie vraiment la construction du tronçon de 26 km entre le réseau du CN et la mine. Par contre, si lui n'est pas prêt à temps pour le départ des opérations, bien, nous gardons l'option de transporter par camion jusqu'à la Syrie-Gagnon, où de là, on va charger le concentré sur rail. Par contre, comme je disais, il y a une équipe qui travaille présentement pour vraiment retrouver une façon de financer le tronçon et de le mettre en place à temps pour le début des opérations. Pour vous situer ici ou pour mieux comprendre, comme je disais, la mine est ici. On voit très bien le réseau du CN qui est ici. Il manque le tronçon entre le réseau du CN et la mine. Fait que c'est lui le tronçon de 26 km qu'on est en train de chercher à financer et à essayer d'avoir à temps. Et si on n'a pas le tronçon à temps de chemin de fer, nous allons devoir camionner jusqu'à ici à la Syrie-Gagnon pour embarquer sur le chemin de fer ou le réseau du CN à ce moment-là. Emploi et formation, c'est sûr que aussi ça a suscité, je dirais pas des craintes, mais plutôt de l'intérêt. Fait que nous, on veut s'assurer d'avoir nos programmes en place à temps pour pouvoir former les employés qu'on va avoir besoin pour notre avenir, pour nos opérations. Pour ce faire, nous avons déjà débuté des rencontres avec la commission scolaire CRI, avec la commission scolaire de la Baie James, avec le CRI Human Resources Development, avec le Centre d'études collégiales de Chibougamau, avec Service Québec et Mino Pro CRI.
Et justement, demain, il y a une rencontre à Oujé avec des représentants de Oujé-Bougoumou pour parler de la formation, de nos besoins de formation pour nos futurs employés. Et mercredi, on a une rencontre ici à Chibougamau avec le Centre de formation professionnelle pour parler du même sujet, la formation de nos futurs employés. Au niveau de l'hébergement, je vais le séparer en deux périodes distinctes, je vous dirais. On a déjà des comités qui ont commencé à travailler là-dessus. La première période est la période de construction. Pour la période de construction, on a listé environ 200 chambres ou logements potentiels où est-ce qu'on va pouvoir loger les employés de la construction, autant à Chibougamau, Chapais qu'à Oujé-Bougoumou. Au niveau des employés permanents pour la période d'opération, à l'heure actuelle, on a aussi un comité qui est débuté, mais on est à établir les stratégies pour pouvoir loger nos employés et les familles. De ce côté-là, les discussions sont débutées, mais le plan de match n'est pas encore complètement développé. Il commence à se développer. Au niveau du développement économique, bien, les retombées régionales, je pense que ça intéresse tout le monde. Premièrement, nous allons investir environ 300 millions de dollars pour la construction au niveau du site minier, préparation de la mine ou la construction des bâtiments et l'installation des équipements à l'intérieur de l'usine. Après ça, on parle d'un budget d'opération du site d'environ 75 millions de dollars annuellement. De ça, vont créer 250 emplois et un peu plus, pour la période de la construction. Et environ 200 emplois vont être créés pour la permanence des opérations. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau du développement économique, nous avons présentement deux ententes qui sont déjà signées. Une entente, un IBA avec la communauté CRI, le Balioski Agreement. Et ça, on a déjà des suivis qui sont débutés. Et aussi, on a un accord de collaboration qui a été signé avec la RBJ Chibougamau et Chapais. Et nous avons aussi des rencontres qui sont débutées pour les suivis de ces ententes-là. Et dans ces deux ententes-là, il y a des volets économiques très clairs qui sont inscrits. On se fait demander, c'est quoi les opportunités d'affaires qu'on va avoir pour la région durant la période de la construction? Il y en a plusieurs, on a listé quelques-unes ici. On parle de la coupe de bois, on parle du déplacement du mortier, hein? On parle du logement des employés, aussi de la nourriture, nourrir les employés de construction. On parle de construire le chemin et de l'entretien des chemins. On parle certainement des employés de la construction qu'il va avoir. On parle de forage, dynamitage. On parle sécurité, une entreprise en sécurité. C'est des genres de choses comme ça qu'il va avoir. Ou est-ce qu'on veut favoriser ou maximiser l'impact régional? On a même été jusqu'à diviser les lots pour essayer d'en faire le plus possible de fabrication et d'installation avec les entreprises de la région. C'est le genre de choses comme ça qu'on fait à l'intérieur de l'entreprise pour favoriser ou maximiser les retombées économiques dans notre région ici. Voici la courbe d'embauche. Ça montre un peu notre projet au niveau de la construction. Nous favorisons ou nous voulons débuter la construction avril-mai 2019. Hiver et printemps 2020, c'est lorsque est-ce qu'on va avoir le plus d'employés de construction sur le site. Et je parle en construction seulement, je ne parle pas des autres employés. Nous parlons de 235 à 250 employés nécessaires durant certaines périodes. Et pour terminer, vers juillet à août 2020, la construction. Voici des principes directeurs pour laquelle on travaille très fort à l'intérieur de l'entreprise pour maximiser notre impact positif dans la région. Premièrement, on veut établir un partenariat de plus de 40 ans avec les communautés et Yuichi Bay James. Ça, c'est important. On est ici pour le long terme, et le long terme, ça se fait en partenariat, en travaillant ensemble. Aussi, on veut tenir compte, et on va tenir compte des préoccupations des communautés, et on va privilégier une approche coordonnée et où est-ce que les gens de la région vont participer avec nous dans l'élaboration de nos solutions. On veut collaborer avec les communautés pour maximiser les retombées économiques, que ce soit locales et régionales. On va aussi établir des horaires de travail qui vont favoriser l'implantation des familles dans la région au lieu de venir d'ailleurs. Et on va principalement ou certainement respecter les ententes qu'on a signées avec les communautés avoisinantes. Pour ce faire, on a déjà trois comités qui sont en place et qui vont bien. Premièrement, il y a un comité de suivi avec les citoyens. Les engagements qu'on a pris, on va avoir des représentants pour les montrer où est-ce qu'on est, on est rendu, où est-ce qu'on s'en va, et prendre le pouls de la population pour nous aider à mieux les faire vivre. On a aussi le comité de liaison avec Chibougamau, Chappé et l'ARBJ qui est en place. Où est-ce que de ce comité-là est maintenant rendu avec un sous-comité, et le comité complet va se rencontrer le 31 janvier prochain pour une autre rencontre. Et on a un comité d'implantation de l'entente Balioski, l'entente que nous avons avec la communauté CRI, où est-ce qu'il y a des appels réguliers pour pouvoir en faire le suivi. J'espère que ça vous explique un peu plus où est-ce qu'on est rendu en tant qu'entreprise. Comme Mme Méthode l'a dit en début de rencontre, nous venons ici pour expliquer les changements au projet qui avait été accepté en 2013. Et j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre où est-ce qu'on en est rendu. Merci de votre attention.
Monsieur Desrosiers, peut-être pourriez nous présenter l'équipe de Métaux BlackRock qui vous accompagne ce soir?
Nous avons plusieurs personnes de l'équipe de Métaux BlackRock ici à la table. En avant avec moi, il y a Richard Saint-Jean, qui est directeur général au site. Je pense que tout le monde connaît probablement Richard dans la région. Jacqueline Leroux, vice-présidente en environnement, qui est ici en avant à la table avec moi. Et Alexandre Métérissian, qui est aux rencontres ou les impacts qu'ils font avec les gouvernements. Nous sommes nous quatre à la table en avant. Par contre, l'équipe BlackRock est un peu plus grosse et plus importante que ça. Et en avant, sur la rangée d'en avant, nous avons plusieurs autres de nos employés. Patrice Baudry, qui était vice-président au niveau de la construction. Pierre Choquette, qui est au niveau des affaires. Cossette, excusez, qui est au niveau des affaires. Corporatives. Carl Savard, qui est au niveau des ressources humaines. Jonathan, qui est ici comme notre stagiaire au niveau des achats, qui nous aide à favoriser ou maximiser les retombées locales là, avec nos achats. Et on a quelques personnes qui ne pouvaient pas se présenter ici, mais vous avez devant vous un bon groupe de personnes pour répondre à vos questions ce soir. Merci.
Nous en sommes donc à cette période d'éclaircissement. Alors, après la pause, ce sera le moment d'émettre vos avis, vos réflexions, vos mémoires, pour ceux qui en ont. Et vous aurez aussi 30 jours suivant la soirée de ce soir. On peut comprendre qu'il y a de l'information qui est peut-être nouvelle pour certaines personnes. Alors, ça ne se termine pas ce soir. Il y aura encore une période de 30 jours où vous pourrez nous faire parvenir vos mémoires et des questions, si ça vous vient un petit peu plus tard. Mais ce soir, ça vous appartient. Le COMEX a déjà fourni aux promoteurs environ 200 questions. Et il y en a une troisième série qui va s'en venir, puisqu'il y a des documents qui sont récemment entrés, donc pour lesquels il y aura des analyses à faire et qui vont sans doute susciter des questions. Mais ce soir, c'est à vous. Alors, est-ce qu'il y en a qui auraient des éléments d'éclaircissement sur ce qui vient de vous être présenté? Êtes-vous gêné? Moi, j'en connais une qui n'est pas gênée. Ah, monsieur, oui, je vous inviterai à aller au micro, à m'adresser la question, mais vous présenter d'abord. Merci. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Mon nom est Alain Lortie. Je suis un homme d'affaires de Chibougamau. Vous avez parlé de comité de travail avec les instances régionales. Ce n'était pas très clair pour moi la nature des comités de travail.
Est-ce que du côté de BlackRock, vous auriez des informations à ce sujet? Donc, sur les comités de travail.
Particulièrement en hébergement.
Bon. OK. Oui, dans les comités qu'on a mis présentement, on a fait une des parties, c'est le recensement qu'on est en train de faire, des offres qu'on peut avoir là, sur le terrain là, d'un communauté. Donc,
quoi?
Les offres.
Des offres immobilières?
On en regarde tout, là.
Oh, oui, okay.
Ça fait que ce soit les logements, des bâtiments, des n'importe quoi, ça fait qu'on en regarde c'est quoi qui s'offre à nous. Puis on est en train de les étudier présentement. Ça fait partie aussi d'un sujet, d'un sous-comité qu'on a aussi avec le comité qui était, l'appelle le comité de liaison, qui est relié à l'entente qu'on a signée là, avec la RBJ, SDBJ, puis les CRI.
Qu'est-ce qu'il y a des hommes d'affaires sur les comités ou
Présentement, non.
Non. OK. Est-ce que je peux poser une autre question, toujours dans le même domaine?
Oui, mais est-ce que vous pouvez me la poser? J'ai manqué de vigilance.
Oui, d'accord.
Vous m'excuserez.
Moi, ce que je sais, c'est que le taux de vacance à Chibougamau, d'après les statistiques que je connais, il est de 0,3%. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, parfait. Donc, à 0,3% de taux de vacance, c'est pas long de faire le tour de l'offre. Il n'y a rien, techniquement. On a un problème. Là, on me parle de 200 logements. Et est-ce que vous êtes conscient qu'il y a une problématique au niveau de la construction régionalement? On a un gros problème à Chibougamau, c'est qu'on a une prime négative d'environ 30% qui est octroyée sur la valeur marchande des immeubles multilogements neufs. Fait que 200 logements, si on fait un chiffron, vite fait, c'est 20 millions. À Montréal, ça me coûte 3 millions de mise de fonds pour 200 logements. Mais à Chibougamau, c'est 10 millions que ça prend. Donc, on a un gros problème de ce côté-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va adresser ce problème-là pour que les entreprises locales, les promoteurs locaux aient la capacité de financer la construction des blocs? Parce que tout le monde à Chibougamau aimerait bâtir des blocs. Je suis certain qu'ici, tout le monde voudrait avoir des appartements puis vous les louer. Mais on a tous le même problème, c'est qu'on est incapable de les financer. Puis la valeur est déjà... 1 million à Chibougamau vaut 700 000 selon les analyses. Donc, on a un problème. Est-ce que quelqu'un va adresser ce problème-là? Parce que la mine va nous aider.
Du côté de BlackRock, peut-être donner plus de détails, bon, et peut-être faire la distinction entre les deux phases du projet. Donc, il y a la phase de construction. Hein, on comprend qu'il y a 200 travailleurs issus possiblement d'ici et de l'extérieur. Donc, c'est ceux de l'extérieur qui, dans le fond, vont nécessiter un endroit où se loger. Et ensuite, bien, il y a la phase, évidemment, d'opération de la mine. Peut-être donner plus de détails, en effet, sur le réalisme ou comment est-ce que vous voyez ça, dans le fond, l'arrivée de ces gens-là, et comment est-ce qu'on peut organiser au niveau de l'hébergement et ultimement, ensuite, pour la phase d'opération.
Comme vous l'avez dit, Mme Metta, c'est effectivement ces deux phases, comme on l'avait bien expliqué. Au niveau de la phase de construction, il y a environ 200 chambres potentielles ici à Chapet, à Oujibougoumou, où est-ce que ce serait possible de loger les employés pour la construction. Pour nos employés permanents, nous débutons la décision stratégique, comment on va l'aborder. On a eu une rencontre avec le comité de liaison à ce sujet, mais c'est vraiment préliminaire. C'est un petit peu plus loin dans le temps, mais pas très loin. Il faut qu'il se passe quelque chose bientôt. Et on est conscient que 0,3% d'inoccupation à Chibougamau, c'est certain que ce ne sera pas possible de loger tous nos employés permanents. Et on sait qu'il va falloir qu'ils se regardent des options de logement. En tant qu'entreprise, nous ne voulons pas devenir promoteurs immobiliers. Ça fait que ça, c'est une décision qu'on a prise. Par contre, on sait qu'il va y avoir des décisions à prendre ou des avantages ou quelque chose à faire avec les gens de la région pour regarder l'avenir, pour qu'ils se bâtissent quelque chose. Donc, on est ouvert en tant qu'entreprise de commencer à regarder ça rapidement pour avoir le temps que ce soit implanté avant le début des opérations, parce que l'embauche de nos employés va se faire probablement 6-8 mois avant le début des opérations.
Merci.
Ça répond à votre question, M. Lortie? Je vous inviterai, et dans le fond, ce commentaire s'adresse à l'ensemble des personnes ici ce soir. J'ai mentionné un peu plus tôt que, suivant les audiences d'aujourd'hui, il y a une période de 30 jours où on pourra recevoir des mémoires, mais des questions aussi. Alors, en effet, si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, je vous inviterai à les faire parvenir et on la reposera à nouveau. On essaiera d'avoir des réponses. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires de mes collègues sur cette question? Peut-être ajouter des questions d'éclaircissement de votre côté aussi?
En fait, une question sur la phase construction. Est-ce qu'on comprend bien que selon les relevés que vous avez faits ou vous établissez à 200 chambres ou en tout cas logements disponibles, vous êtes en mesure d'accommoder vos travailleurs de la construction qui pourraient s'accommoder de la situation actuelle à Chibougamau? Est-ce que c'est votre vision des choses?
À l'heure actuelle, il y a même des logements ou des solutions qui ne sont pas utilisées qu'on regarde. Et on est en train d'évaluer. La première chose qui a été faite a été vraiment de recenser qu'est-ce qu'il y avait de potentiel dans la région. Et à l'heure où est-ce qu'on se parle présentement, on est en train d'évaluer ce potentiel-là par rapport à nos besoins. Fait qu'on est rendu beaucoup plus avancé, mais je suis pas capable de répondre aujourd'hui. Est-ce qu'on a une place pour chacun des employés de la construction? Nous sommes en train de l'évaluer présentement. Fait que ça s'en vient bientôt. Nous parlons de débuter la construction au printemps prochain.
Dans votre étude d'impact révisée, vous mentionnez en effet, entre autres, de rénover un ancien hôtel, l'hôtel Aricana. Alors, est-ce que c'est le genre de projet auquel vous référez?
Effectivement, c'est un projet qui est regardé présentement. C'est un des projets qui est regardé présentement.
Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'en phase de construction, les entreprises qui vont venir travailler, vous aider à construire la mine comme telle, s'occuperaient elles-mêmes de loger leurs employés dans des installations temporaires ou dans des roulottes ou quelque chose comme ça, ou vous envisagez vraiment uniquement de vous baser sur l'offre de logement qui était existante là?
Si c'est possible, Patrice pourrait... Tu es plus avancé là, que moi dans ce sujet-là.
Non, je vous inviterai à aller au micro, s'il vous plaît, à vous nommer, à vous présenter.
Bonjour, m'entendez? Patrice Baudry, vice-président projet. En fait, je suis en charge de la construction. C'est pour ça qu'on me passe la question. Comme Yves et Richard ont mentionné, on a vraiment regardé potentiellement tout ce qu'on peut utiliser comme logement, mais aussi tout ce qu'on peut améliorer comme logement disponible et avoir certains projets de développement. Donc, il va y avoir un mix d'utilisation des actifs actuels et aussi potentiellement regarder avec certains partenaires la construction potentielle de logements qu'on participerait d'une certaine façon, qui va pouvoir nous aider par la suite durant l'opération. Tout ceci étant dit, la question était exactement...
Est-ce qu'on peut imaginer que les entreprises de construction s'occuperaient elles-mêmes de loger leurs employés?
Okay. Dans notre étude de faisabilité, en fait, on donne la responsabilité aux contracteurs de trouver du logement. Nous, on veut faciliter, en fait, la disponibilité des logements. En fait, c'est de cette façon-là que ça a été présenté.
en ajout à cette question, donc, sur les potentiels que vous avez, en effet, illustrés dans votre étude d'impact, est-ce que je dois comprendre qu'au plus fort des travaux de la construction, la totalité de l'offre de logements touristiques, finalement, parce que dans le fond, c'est de l'hébergement dans les hôtels, les bed and breakfast, en grande majorité, serait donc occupée par les travailleurs voués à la construction du projet?
En fait, pour répondre à la question, dans les 200 logements disponibles, on n'a pas tenu compte justement des sites comme l'hôtel Chibougamau qui sont disponibles. Donc, on a tenu compte vraiment des chambres à part quelques-unes, je dirais peut-être 10 % qui sont considérées des chambres pour les touristes ou pour l'occupation normale, en fait.
Est-ce que quelqu'un a des questions supplémentaires d'éclaircissement au niveau de l'offre d'hébergement? Jean-Paul a une question pendant que monsieur s'approche.
J'imagine que quand on regarde la question de logement, au début, il faut répondre aux questions de l'origine de ces travailleurs. Comme si on prend des travailleurs de la région, mais on n'a pas nécessairement besoin d'être préoccupé de leur logement. J'imagine que ça rentre dans la question de l'inventaire aussi.
En fait, ça fait partie de l'analyse. Comme vous savez, il y a des cycles dans la construction. Le premier cycle, pour nous, c'est vraiment un développement de travaux civils. Les travaux civils, on espère que les travailleurs vont venir de la région, la plupart. Par la suite, il va y avoir les travaux de structure, de béton, électricité. On sait que l'offre dans la région est moindre. Donc, on planifie justement les logements en fonction de la phase de construction.
Merci beaucoup. On a une question. Vous êtes monsieur?
Alain Coulombe, d'équipement JVC. Je voulais juste mentionner, puis là, je me suis fait voler mon punch, c'est que justement, il y a des contracteurs à Chibougamau qui sont capables de faire des phases de travail, puis qui sont déjà, leurs travailleurs restent à Chibougamau, puis à Chapin, puis à Oujibougamau, puis à Mississini. Ça fait que quand on revoit la pointe de travailleurs, il ne faut pas voir la pointe de travailleurs qui va être nécessairement venir de l'extérieur. Il y en a plusieurs qui vont venir de l'intérieur.
Est-ce qu'il y a d'autres questions d'éclaircissement sur la présentation du promoteur? Ça va? Alors, on va passer à une courte pause d'une quinzaine de minutes et on va revenir pour la présentation des mémoires ou commentaires. Je vous rappelle que vous avez aussi encore 30 jours pour présenter des mémoires. Vous n'êtes pas obligé de venir les présenter oralement. Vous pouvez tout simplement les présenter, nous les faire parvenir par le courrier, par courriel. Par contre, c'est certain que c'est plus intéressant de vous entendre de vive voix. C'est pour ça qu'on a pris la peine de se déplacer. C'est surtout que c'est du temps qui vous appartient ce soir. On se retrouve dans 15 minutes.